talmudique. Qu'est-ce qu'au juste un porc ? Grande question métaphysique que pose avec insistance une pièce de Beckett intitulée « Happy Days » en anglais et « Oh les beaux jours » en français. Créée à New York en septembre 1961 dans une interprétation mémorable de Madeleine Renaud dans le rôle de Winnie et de Régis Houtin dans le rôle de Willy dans une mise en scène de Roger Blin. Qu'est-ce qu'au juste un porc ? Étonnante question qui est peut-être l'une des questions majeures de l'histoire de la littérature en général, de la littérature et de son rapport au judaïsme en particulier. Philippe Zard, bonjour.
Bonjour.
Philippe Zard, vous êtes maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Paris-Nanterre et vous venez de publier un ouvrage dense et volumineux intitulé « De Shylock à Sinoc, essai sur les judaïsmes apocryphes ». Dans ce livre, où vous analysez par le détail, quasi talmudiquement, plusieurs monuments de la littérature mondiale, de Shakespeare à Modiano, en passant par James Joyce, Thomas Mann, Albert Cohen, Cervantes, Zangwill, Kafka, Perec, Jabès et d'autres encore, bien que vous ne citiez pas ce texte de Beckett, la question « qu'est-ce qu'au juste un porc ?» y résonne particulièrement avec force. Mais commençant par votre titre, « De Shylock à Sinoc », on sent le plaisir de l'allitération, mais qui est ce Sinoc, un héros peu habituel pour nos oreilles de lecteurs, Philippe Zard ?
En effet, c'est une question qu'on me pose souvent. Qui est ce Sinoc ? Shylock, on connaît à peu près. Alors, ce n'est pas seulement le plaisir de l'allitération, c'est aussi parce que je pense que le Perec avait tout à fait aussi en tête de faire rimer son Sinoc avec Shylock, qu'on prononçait au XIXe siècle en France dans les traductions Shylock, assez couramment. Bien sûr, Sinoc, c'est aussi autre chose. C'est un nom en cinq lettres qui est un peu comme Perec lui-même et qui est une sorte de double de Perec, ce pentagramme. Qui est un personnage de la vie mode d'emploi, l'œuvre majeure de Georges Perec. C'est un nom d'abord qui est une énigme, précisément dans le roman lui-même, qui est un nom imprononçable, comme d'autres noms, et qui connaît plusieurs variantes géographiques, phonétiques, etc. Il y a déjà une diaspora des noms propres dans ce roman de Perec, et qui renvoie justement au caractère accidentel ou accidenté du patronyme juif dans l'histoire. Il y a une histoire de ces patronymes accidentés qui date en réalité essentiellement du 19e siècle et des mesures d'uniformisation qui ont conduit les juifs d'Europe à porter justement des patronymes, contrairement peut-être à un usage plus traditionnel qui faisait que le prénom était en réalité le vrai nom important d'un sujet juif. Et ce Sinoc est un personnage secondaire, mais important symboliquement, puisque c'est un lexicographe. Et on peut imaginer qu'un écrivain se projette aisément en un lexicographe. Il est employé d'un dictionnaire et il est assigné à une tâche particulièrement complexe et ambivalente, puisque c'est un tueur de mots. C'est quelqu'un dont la tâche est d'être l'exécuteur, le bourreau des mots désuets, des mots caduques. Et il doit épurer, c'est un épurateur, les dictionnaires de ces mots qui ne sont plus d'actualité. Alors, en ce sens, il a quelque chose de très inquiétant, comme n'importe quel bourreau. Et en même temps, et c'est tout le génie de Perec, au moment même où Sinoc exécute implacablement ces mots qui n'ont plus leur place dans le dictionnaire, eh bien, il les recueille comme un sauveur, comme quelqu'un qui, je dirais, érige un monument, édifie un mémorial des mots disparus, des mots défunts. Et c'est un acte de piété qui vient en quelque sorte racheter ce travail d'exécuteur qui est le sien. Tout lecteur de Perec sait que derrière ce travail de mémoire, il y a un travail de deuil et que toute la vie mode d'emploi et tout l'immeuble de la vie mode d'emploi peut être interprété comme un monument funéraire érigé à la mère de Georges Perec, morte dans un camp d'extermination. Et ce synoque porte aussi, tragiquement, la mémoire de cette mort de la mère de Georges Perec, qui a, dans W ou Le Souvenir d'enfance, érigé un autre monument à ses défunts, à ses morts. Voilà pourquoi il m'avait semblé important de faire cette boucle de Shylock à Synoc pour rendre compte de ces métamorphoses de la judaïté dans la culture et dans la littérature.
Alors ce bornage permet peut-être mieux de comprendre le plan de votre livre dont l'articulation n'est pas évidente, Philippe Zard. Trois parties essentielles
qui sont trois phases d'une réflexion plus générale sur ce que j'appellerais, même si ce n'est pas moi qui ai inventé le terme, bien sûr, ces judaïsmes imaginaires, que tantôt des écrivains chrétiens, tantôt des écrivains juifs ont porté et exprimé. Alors, la première partie de mon travail, que j'ai appelée « Les avatars du juif charnel », est une méditation sur trois œuvres majeures, qui sont un peu trois moments clés de cette réflexion d'écrivains de culture chrétienne sur cette figure du juif charnel. Alors, c'est ici, je fais référence clairement à une notion clé de la théologie paulinienne de saint Paul. Les juifs selon la chair, ce sont les juifs qui s'opposent aux juifs selon l'esprit, c'est-à-dire les juifs de la nouvelle alliance inaugurée par le Christ et par le christianisme. Les juifs selon la chair sont donc ces juifs qui sont cette partie du peuple juif qui n'est pas résorbée, qui ne s'est pas dissoute, résorbée dans le christianisme et dont toute la théologie chrétienne s'est demandé quoi faire au fond, quel était le sens de leur survie, de leur permanence. Et à travers trois œuvres qui sont d'une part le Marchand de Venise, d'autre part Nathan le Sage et enfin le Ulysse de Joyce, j'analyse la manière dont cette question a été portée et réfléchie par la littérature dans des contextes où, je dirais, la littérature est encore très largement arrimée à des notions théologiques fortes. La question de la foi, la question de la vraie religion, la question des rapports entre judaïsme et christianisme est absolument capitale dans ces trois œuvres. Mais en même temps, des moments où la littérature cherche à, je dirais, aborder cette question en des termes plus profanes, à la dégager de la gangue théologique pour peut-être la porter plutôt sur la scène politique. Et c'est cette histoire-là que j'essaye de retracer dans la première partie. Une deuxième partie de la réflexion, que j'ai appelée un peu prétentieusement l'invention du judéo-christianisme, est consacrée en fait à l'étude essentiellement d'une œuvre majeure écrite pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui est un recueil d'écrivains anti-nazis sous l'égide de deux personnalités importantes, Armin Robinson et Hermann Röschning, une dizaine d'écrivains rassemblés sous un projet tout à fait singulier qui est de montrer en pleine Deuxième Guerre mondiale que le nazisme est beaucoup plus qu'une puissance politique dangereuse, mais le nom que porte, au fond, un combat anti-chrétien et anti-juif, une sorte de guerre métaphysique contre l'héritage du moral, du décalogue, de la loi mosaïque. Et donc c'est une œuvre très singulière, puisqu'il s'agit d'y montrer, ni plus ni moins, que Hitler attaque méthodiquement, non pas simplement la morale judéo-chrétienne en général, mais de manière tout à fait précise et ciblée, les 10 articles des 10 commandements, de chacun des 10 commandements. Donc c'est tout à fait singulier comme entreprise, mais c'est aussi sans doute une des expressions les plus fortes et les plus intéressantes des convergences et en tout cas du dialogue qui est en train de se nouer entre judaïsme et christianisme, éventuellement parfois, et j'essaye de le montrer aussi, sur la base de certaines équivoques ou malentendus qui sont passés sous silence mais que l'analyse littéraire révèle.
On consacrera une émission la semaine prochaine précisément sur cette seconde partie.
Voilà.
Nous arrivons à la troisième partie.
Et la troisième partie, tout à fait, qui est une réflexion sur ce que j'appelle les néo-maranismes littéraires et qui est là cette fois plutôt centré sur des écrivains juifs du XXe siècle qui ont ceci en commun, de part et d'autre, je dirais, du génocide, d'être orphelin de la tradition et qui, sur les reliefs de cette tradition oubliée, de cette tradition en déshérence, vont réinventer à leur manière, une manière toujours originale et individuelle, un judaïsme à leur goût, un judaïsme hors les murs, comme je l'appelle parfois, un judaïsme parfois de contrebande, mais dans lequel, au fond, par lequel ils tentent de se réaffilier imaginairement à une tradition perdue. Voilà à peu près les trois phases de ces réinventions imaginaires du judaïsme que j'ai essayé de retracer.
Alors, on va revenir méthodiquement sur ces trois phases et reprendre la première, si vous le voulez bien. Je pense à Don Quichotte, très présent dans votre réflexion. Don Quichotte, dont Kundera nous rappelle toujours avec insistance que c'est avec cette œuvre que naquirent les temps modernes et le roman, son image et modèle avec lui, un livre qui, dès le second chapitre, donne peut-être l'une des clés du roman, même si ce n'est pas nécessairement un roman à clé. Don Quichotte arrive à l'auberge et, je cite, « En ce moment, il arriva par hasard qu'un porcher qui rassemblait un troupeau de cochons, una manada de puercos, souffla dans une corne au son de laquelle ces animaux se rassemblent. » Et Cervantes d'ajouter, entre parenthèses, après le mot puercos, « Que sin perdon assis et yaman, je vous demande pardon, mais c'est comme cela qu'il se nomme. » De qui et de quoi s'agit-il exactement, Philippe Sard? N'est-ce pas une claire allusion au Maran, une situation sociale, politique et philosophique et littéraire qui est au cœur de votre recherche? Mais d'abord, que signifie exactement le terme de Maran?
Oui, alors, le terme de Maran est un terme qui va désigner jusqu'à aujourd'hui, malgré les réticences de certains historiens qui préfèrent d'autres mots comme judéo-convert, converso, scripto-juif, etc., qui va désigner cette réalité historique qui est celle des juifs convertis par la force à partir de la fin du XIVe siècle dans l'Espagne de la Reconquista. Cette Espagne qui est donc reconquise par les catholiques et qui va baptiser de force des centaines de milliers de juifs. Ces centaines de milliers de juifs vont ensuite évoluer dans des directions très différentes. Certains vont devenir de vrais chrétiens, d'autres vont jouer ce qu'on pourrait appeler un double jeu, c'est-à-dire ils vont judaïser en secret tout en affichant extérieurement le catholicisme, et d'autres membres de ces convertis vont devenir en réalité souvent des hybrides, voire des sceptiques, qui, à force de jongler avec des identités plurielles et multiples, finalement, ne vont plus du tout se rattacher à la moindre religion. Alors, il se trouve que le mot Maran est généralement interprété comme signifiant porc. Et c'est bien sûr le sens de la remarque que vous faisiez. Quand, en effet, au début de Don Quichotte, il est question de porcs qui se rassemblent au son du cor, il est presque impossible, étant donné que Cervantes écrit dans une Espagne obsédée par la question du maranisme, par la question de la pureté du sang, une Espagne où l'on traque tous ceux qui sont susceptibles de judaïser. Dans cette Espagne-là, mentionner avec cette insistance un peu suspecte ces porcs qui se rassemblent au son du corde, c'est-à-dire, pour vous bien sûr, du chauffard, fait tout de suite sens. Alors, d'autant que tout laisse à penser que Cervantes était sans doute issu lui-même d'une lignée de conversos, ce dont on aurait un indice dans ce village de la Manche dont il faut ignorer le nom, sachant que Mancha signifie aussi la tâche, et que ça a été considéré souvent comme un indice tout à fait plausible des origines suspectes de Cervantes. Alors voilà ce qu'il en est. Reste à savoir, et c'est une question que je ne trancherai pas parce que je ne suis pas moi-même spécialiste de Cervantes et ni hispaniste, si Cervantes a voulu porter au-delà de ses allusions quelque chose comme une leçon juive cachée au cœur de son livre. Il y a là des appréciations et des exégèses différentes. Certaines peuvent sembler hasardeuses, d'autres beaucoup plus solides. Et je dirais de peur sans doute de m'enferrer dans des interprétations un peu tirées par les papillotes. Je ne me risquerai pas au-delà pour Cervantes. Ce qui est sûr en revanche, c'est que cette question du maranisme dépasse de beaucoup en réalité la situation historique de l'Espagne, la situation contextuelle de cette Espagne du siècle d'or, et va avoir un enjeu anthropologique jusqu'à notre modernité, puisque au fond le maranisme peut être entendu dans un sens élargi comme un principe, je dirais, de trouble dans l'identité qui concerne bien sûr au premier chef le judaïsme moderne, mais qui sans doute par extension est un élément d'interprétation et de compréhension de la situation et de la condition moderne beaucoup plus générale.
Floyd Pigs, une chanson politique de Roger Waters, où le cochon est l'ennemi à abattre, le riche, qui s'engraisse sur le dos des moutons gardés par les chiens. Les concerts qu'a donné Waters en 2013, où des cochons volants étaient décorés de grandes magaines David, n'avaient peu de secret quant à leur antisémitisme, ce qui montre toute l'ambiguïté de cet animal. Il peut à la fois dire le juif et la haine du juif, séparément et parfois dans le même temps. Décidément, le juif au cochon est un symbole idiot, à la fois au sens que Clément Rosset donne à ce terme, et pas seulement Philippe Zarm.
Alors en effet, c'est un drôle de symbole, un symbole fort, fort intéressant. Il a été assurément la ligne de démarcation identitaire entre judaïsme et christianisme. Il y a ce livre tout à fait capital de Claudine Fabre-Vassas sur la bête singulière qui a servi littéralement, c'était l'élément par lequel on pourrait dire que, en tous les sens du terme, le judaïsme se trahissait. Le judaïsme se trahissait quand il mangeait du porc. Il se trahissait aussi quand il enlevait le porc des aliments, comme dans cette Espagne ou ce Portugal. On connaît tous ce passage de Voltaire où des Portugais vont sur le bûcher pour avoir enlevé le lard de leur poulet. Eh bien, voilà ce porc qui devient l'indice de la discrimination et du contentieux judéo-chrétien. En même temps, ce qui est tout à fait singulier, c'est que c'est un de ces exemples assez rares, finalement, où une population peut être injuriée et désignée de manière injurieuse par un animal qu'elle rejette dans sa symbolique même. C'est-à-dire que généralement, on associe un symbole à une population quand celle-ci se l'approprie. Or, ici, clairement, le porc devient le symbole des juifs qui n'en mangent pas. Et inversement, les mêmes chrétiens, dit Claudine Fabre-Vassas, qui injurient les juifs en les traitant de porcs, eh bien, ont institué des rituels autour du porc qui sont comme la preuve toujours réactualisée qu'ils ont rompu avec la vieillerie juive, hein, et que la juvénilité chrétienne succède à la vieillerie juive. Donc, ligne de démarcation, mais ligne aussi très ambiguë, puisque dans le judaïsme même, le porc est un animal singulier, au sens où il est un animal trompeur. Selon les règles alimentaires du judaïsme, la cacheroute, pour être cachère, un animal doit avoir les sabots fendus et être ruminant. Extérieurement, le porc a les sabots fendus, mais il n'est pas ruminant. Il est donc, d'une certaine manière, un animal trompeur. Il est doté de cette sorte d'inquiétante étrangeté qui fait qu'il symbolise le mal, mais il est aussi, d'une certaine manière, un animal qui est doté d'une certaine promiscuité ou d'une certaine proximité avec l'humain, au point même que certains midrash juifs ont prophétisé en quelque sorte son retour dans le sein du judaïsme, dans les temps messianiques sans doute. C'est peut-être l'expression d'une frustration rabbinique en termes gastronomiques, je ne sais. C'est le retour du cochon prodigue. Le porc se dit chazir en hébreu et il est rattaché à la racine qui veut dire revenir. Hein, ce qui veut dire que le porc redeviendra cachère, en quelque sorte, dans certaines prophéties.
Alors je me demande si le pied de cochon, avec son sabot fendu, comme vous venez de le dire, et qui fait de lui un animal cachère, du moins extérieurement, ne serait pas le symbole de toute littérature. En ceci que ce sabot fendu signifierait l'événement qui nous arrive, que tout n'est pas déjà tracé, programmé, prévu, immobile, qu'il y a au contraire place dans nos vies pour le nouveau, l'inattendu, l'improbable, l'inespéré, entendons-le bien, ce nouveau n'est pas seulement celui que je fais surgir dans le monde par mon initiative, il est aussi celui que les autres, tous les autres font surgir, comme dit Hannah Arendt, mon action sincère, en effet, dans un réseau déjà existant de relations humaines, et c'est pourquoi elle atteint rarement son but, détournée, déroutée en chemin par les effets imprévus d'actions posées par d'autres, sachant que les conséquences de n'importe quelle action sont toujours en nombre infini. Et ce rôle des écrivains et de la littérature serait de nous le rappeler, cette bifurcation possible, permanente, de nos vies. Mais cette interprétation pourrait être donnée à partir de tous les animaux qui ont le sabot fendu. Qu'est-ce que le cochon, comme symbole, amène à la définition de la littérature? En quoi toute littérature serait peut-être marane, Philippe Zard?
Alors, commençons peut-être par les sabots fendus, puisque fendre les sabots d'un porc, enfin, ou considérer qu'un animal est cachère quand il a les sabots fendus, ça renvoie d'ailleurs, par exemple, à la cacheroute du poisson qui doit avoir des ouïes. Autrement dit, c'est l'idée d'une ouverture vers le monde extérieur, vers l'altérité en quelque sorte, les écailles, les ouïes, la fente. Et cela rappelle aussi très largement, au fond, le travail même et de l'exégèse et de la littérature. Qu'est-ce que l'exégèse, sinon justement fendre la carapace des mots, dégeler les mots, comme dirait Rabelais? Et qu'est-ce que la littérature? On se souvient tous de la phrase de Kafka, hein, les vrais livres sont ceux qui fendent en nous la mer gelée. Briser le marbre de la loi, réinsuffler de la vie, réinsuffler de l'invention. À vrai dire, c'est par exemple ce que fait Portia dans Le Marchand de Venise, lorsque déguisée en avocat, eh bien, elle se saisit du contrat meurtrier de Shylock et y réinsuffle du sens par une interprétation extrêmement audacieuse de ce contrat meurtrier, et pour y réinsuffler presque contre toute attente l'interdit du meurtre, alors même que le contrat semble prescrire le meurtre. Et maintenant, sur la spécificité du cochon, je dirais que la littérature, c'est peut-être aussi, comme le cochon, l'interdit. Ce qui fait que l'on s'aventure hors du périmètre légal de la morale, des normes sociales, et aussi, bien sûr, de la religion. Ce qui fait aussi que le judaïsme a une relation très ambivalente à la littérature, que le livre a une relation très ambivalente avec les livres, car c'est à la fois, évidemment, un prolongement de l'activité de rumination et d'ouverture qui est celui du livre et de l'exégèse, mais c'est en même temps un prolongement qui n'a plus aucun garde-fou, qui n'a plus le cadre de l'autorité ni la sécurité assurée par la transmission multiséculaire de la foi. Et donc la littérature est toujours une prise de risque par rapport précisément à aux certitudes et aux dogmes qui, généralement, ont plutôt cet aspect réconfortant de nous engager dans des voies ou des ornières beaucoup plus sûres.
Alors on retrouve ces cochons et ce péril de la littérature tout au long du Quichotte, et je citerai juste pour le plaisir ce passage du chapitre 9 de la première partie où le narrateur, qui se fait traduire de l'arabe une des pages manuscrites de l'histoire du Don Quichotte, tombe sur une note marginale qui fait d'ailleurs rire le traducteur. « Voilà, reprit-il, ce qui se trouve écrit en marge, cette Dulcinée du Toboso, dont il est si souvent fait mention dans la présente histoire, eut, dit-on, pour saler des porcs, meilleure main qu'aucune autre femme de la Manche. » Plus tard, c'est dans l'Ulysse de James Joyce, Philippe Zard, que l'on retrouve les traces de cette filière porcine, c'est votre expression. Une longue histoire qui remonte déjà à Homère. Quel est l'enjeu de ce texte de Joyce, à partir duquel vous nous proposez un très long et important chapitre intitulé « Ulysse ou l'anatomie du marane » Philippe Zarn. Que signifie le maranisme et le maranisme littéraire, même si vous avez déjà beaucoup esquissé cette question?
Alors, il y a un point commun entre l'extrait du Quichotte que vous avez mentionné et l'œuvre de Joyce, c'est que, précisément, le cochon, il tient une place centrale, et la première fois que Léopold Bloom apparaît dans Ulysse au chapitre 4, eh bien, c'est toujours avec ce cochon. On sait qu'il, par exemple, il a une prédilection pour les rognons de porc. Alors, très singulièrement, au fond, et c'est là qu'on voit que l'ambivalence extrême du symbole, comme pour Dulcinée du Toboso, au fond, que veut dire le passage du Don Quichotte que vous avez signalé? Que Dulcinée du Toboso sale le porc comme d'autres cachérisent la viande? Est-ce que c'est un geste, au contraire, qui en fait trop pour être honnête? Autrement dit, plus on sale le porc, plus on se signale comme éventuellement suspecte d'être une descendante de convertis. Pour ce qui est de Bloom, c'est encore plus compliqué, puisque, d'une certaine manière, Bloom a une passion pour le porc. Et que plus cette passion s'exprime, plus il se signale comme juif. On est dans une sorte de jeu à front renversé. Bloom cuisine du porc tout en sachant qu'il transgresse des lois anciennes. Bloom se sert du porc parfois comme substitut d'une gastronomie qui ressemble beaucoup à la gastronomie ashkénaze. Une passion pour les abats qui ne surprendra aucun amateur de gefilte fish et autres foies hachées. Le porc, tout en signalant ou en étant supposé, ou plutôt en étant réputé, signaler la parfaite assimilation de Léopold Bloom, fils d'un juif hongrois, à la nation irlandaise, ne cesse, au contraire, de le signaler comme un néo-marane, comme un juif caché, que tout finit dans le roman par trahir comme tel.
Vous parlez du maranisme avec intensité, si je puis dire, et votre livre porte le sous-titre « Essai sur les judaïsmes apocryphes ». Quelle différence entre judaïsme marane et judaïsme apocryphe, Philippe Zard?
Alors, ce n'est pas une différence entre judaïsme marane et judaïsme apocryphe. Je dirais plutôt que c'est une différence entre la condition marane, qui est une condition humaine du sujet juif moderne, et les judaïsmes apocryphes, expression commode que je réserve à ces réélaborations théologiques, imaginaires ou culturelles du judaïsme, telles qu'elles sont inventées ou réinventées par des écrivains. Mais le marranisme a une acception beaucoup plus large. En réalité, le marranisme, c'est vous, c'est moi, c'est toutes ces formes abâtardies, hybrides, acculturées du judaïsme dans son contact permanent avec la culture environnante. Ensuite, il y a une différence, je dirais, bien sûr, entre le marranisme historique, qui était obligé de vivre dans la clandestinité, et ce maranisme tranquille, je dirais, ou plus ou moins tranquille, selon les contextes, qui ne passe pas nécessairement par la clandestinité, mais qui peut aussi s'assumer comme tel.
Merci Philippe Zard pour ces passionnantes analyses qui donnent envie non seulement de nous plonger dans votre livre, mais qui nous invitent aussi à lire ou relire ces œuvres difficiles et d'une immense richesse pour la pensée. Merci pour votre passion de la littérature qui est en quelque sorte aussi un bel hommage à Philippe Roth qui aurait sans doute aimé réfléchir avec vous à toutes les questions que vous abordez dans votre recherche. Lui qui écrivait dans Le complot contre l'Amérique, comme s'il fallait y voir la conséquence directe du fait que Sandy avait mangé du bacon, du jambon, des côtes de porc et de la saucisse, notre vie connaissait des mutations irrésistibles. Le rabbin Ben Gulsdorf venait dîner, amené par tante Evelyne. Je vous propose de poursuivre avec vous cette conversation la semaine prochaine autour d'autres figures majeures de la littérature et de leur rapport avec le judaïsme. Je rappelle le titre de votre ouvrage, paru aux éditions Classique Garnier, de Shylock à Sinoc, essai sur les judaïsmes apocryphes. Merci encore Philippe Zard.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Pierre Monteil. À la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau, Coltouve, Leïtraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.